Chapitre 2. Elle eut toute une nuit la fièvre et le délire. Elle semblait se débattre contre des ennemis invisibles et, sans cesse, les noms de Maxence et d'Edmer revenaient sur ses lèvres. À un moment, tandis que le médecin se tenait penché vers elle, il entendit qu'il murmurait plaintivement
« Edmer, j'ai froid. Laissez-moi ma couverture. Laissez-moi un peu seulement. Edmer, j'ai si froid. »
« Que dit-elle, là ?» demanda le médecin à Jacques, qui se tenait debout, l'air navré, près du lit de sa sœur. Le jeune garçon lui raconta alors la méchanceté dont Edmé de Blangard s'était rendu coupable envers sa cousine. « La mauvaise créature est odieusement hypocrite avec cela, mais la chose n'a pas prise avec moi. Ah, je comprends maintenant la raison première du malaise si violent de cette pauvre enfant. » Don Miguel aura au moins la satisfaction de penser que ce ne sont pas absolument ses ordres interprétés trop étroitement qui en sont la cause, ce qui le désolait. Mais je crois qu'il va avoir là une occasion d'exercer son impitoyable justice, ajouta le médecin en se parlant à lui-même. La fièvre tomba dans la matinée. Inès reconnut Jacques et lui sourit. Dans l'après-midi, elle se trouvait beaucoup mieux. « Allons à la nourrice de Don Miguel, ainsi qu'elle l'apprit à la jeune fille, l'entourée de soins et de gâteries. Rien ne manquait à la jeune malade. » Don Sanche, le médecin, ayant permis une orange, l'Indienne en apporta une énorme sur une assiette de cristal idéalement fin, encerclée d'or. Ce métal semblait, d'ailleurs, être ici d'un usage courant. Mais son prix initial était pour le moins quintuplé par le travail délicat de tous les objets qui en étaient faits. Allons à servir les repas de Jacques dans une vaisselle ciselée qui était une merveille, la vaisselle de Don Miguel, disait-elle d'un ton de respect intense. Et ces repas n'avaient aucun rapport avec ceux précédemment faits dans la prison. Ils étaient composés de mets de choix délicatement apprêtés par le cuisinier du roi des Andes. « Non, mais c'est très chic d'être prisonnier comme ça, » disait Jacques, quelque peu gourmand. « C'est plutôt meilleur ici qu'au collège, la nourriture. Mais il est donc un nabab, ce Don Miguel ?» C'était en tout cas un homme qui aimait le beau et qui avait su s'organiser, dans ce repère mystérieux, une existence munie du confortable et du luxe les plus raffinés, en même temps que de tous les perfectionnements modernes. « Rien ne manque ici, » dit fièrement Alonso, à qui Jacques exprimait sa surprise. « Vous verrez ça quand la signorita pourra sortir. Ah, on ne trouverait pas deux hommes comme notre cabecilla, » ajouta-t-elle d'un ton d'admiration extatique. Après une nuit paisible, Inès se trouvait le lendemain à peu près complètement remise. Don Sanche déclara avec satisfaction « Allons, ce ne sera rien du tout. » « Vous avez une excellente constitution, señorita, en dépit de votre apparence délicate. »« Mais vous m'avez aussi très bien soignée, señor, » dit-elle avec reconnaissance. « J'ai fait ce que j'ai pu, mon enfant, et je suis enchantée du résultat. » Inès passa une matinée fort tranquille avec Jacques dans la chambre chinoise où flottait une délicate senteur exotique. Elle se sentait encore un peu lasse, mais toute trace de fièvre avait disparu. Seulement, elle était profondément tourmentée en se demandant comment finirait l'étrange aventure où les Blangas avaient jeté Jacques et elle. Pourquoi Don Miguel, cet être mystérieux qui jouait un double rôle, s'était-il attaqué à l'expédition de Blangard? Que prétendait-il faire de ses prisonniers? Et pourquoi, aussi, traitait-il avec des égards si particuliers Inès de Brévise et son frère? Toutes ces perplexités, toutes ces angoisses s'agitaient dans le cerveau d'Inès, tandis qu'elle écoutait d'une oreille un peu distraite le bavardage de Jacques, qui lui racontait la promenade faite ce matin à travers le camp. « On me laissait aller partout, comme si je n'avais pas été prisonnier. J'ai vu l'usine qui donne l'électricité. Elle est installée tout près d'une cascade superbe. Et puis, sais-tu qui j'ai pu apercevoir au seuil d'une tente? Pigot, ce coquin de Pigot. Cet homme était certainement un traître. Évidemment, mais il faisait tout de même bien le pochard. Tiens, encore une figure qui m'a frappé. Comme je m'en revenais par ici, je croisai un jeune homme qui ressemblait trait pour trait au cousin de mon condisciple Louis Darbier. Il s'appelait le vicomte de Salves et venait quelquefois voir Louis au collège. J'aurais juré que c'était lui, Inès. Et en me voyant, il a détourné les yeux et a fait un brusque crochet pour m'éviter.
C'est bien invraisemblable, Jacques.
Oh, tu sais, maintenant, on peut s'attendre à tout. Quand on pense que ce chef de bandit est le même homme que le comte de la Roche-Gléon...
Je ne peux pas le croire, murmura Inès.
Elle disait cela, et pourtant, au fond d'elle-même, elle était sûre que le roi des Andes était le même que le jeune étranger avec lequel elle avait eu l'occasion d'échanger naguère quelques mots. Une telle physionomie ne pouvait se confondre. Et d'ailleurs, il l'avait reconnue, elle l'avait vue à l'expression de son regard lorsqu'il s'était arrêté sur elle pour la première fois. Était-ce pour cela qu'il supprimait envers elle toutes les mesures rigoureuses auxquelles les autres prisonniers demeuraient soumis et la traitait, ainsi que son frère, d'une manière si particulière ?
Qu'est-ce que tu as à songer comme cela ? Disait Jacques en la voyant distraite et pensive. Je suis sûr que tu t'inquiètes encore. Il n'y a pourtant rien à craindre, je suis bien certain que Don Miguel nous rendra la liberté. Si nous lui payons une rançon, peut-être. Et où prendrions-nous celle-ci? Il nous croit peut-être très riche, et c'est dans l'espoir d'obtenir une plus grosse somme qu'il nous traite si bien.
Elle disait cela en hésitant, et au fond d'elle-même, quelque chose protestait contre ce soupçon de vénalité qui lui venait à l'esprit.
Ce ne peut être pourtant que cela de la part d'un tel homme, songea-t-elle.
Comme son frère et elle finissaient de déjeuner, Don s'enchantera.
Vous allez mieux, seigneurite?
Oui, la mine est déjà meilleure que ce matin. J'autoriserai un peu plus tard une petite promenade. Pour l'instant, je viens de la part de Don Miguel vous demander si vous vous sentez assez bien pour assister tout à l'heure à l'interrogatoire des autres prisonniers. Il paraît qu'il y aurait lieu, là, à des révélations intéressantes pour vous et qui vous éclaireront sur les agissements de vos parents. Mais dans le cas où vous vous sentiriez trop affaibli encore, Don Miguel est tout disposé à remettre cet interrogatoire.
Non, je suis bien maintenant, Seigneur. « Mais vous parlez d'interroger les autres prisonniers. Et nous ?»
Don Sanche lui prit la main en souriant avec bonté.
« Allons, allons, je vois de l'inquiétude dans ces yeux-là. Ne craignez rien pour vous et pour votre frère, mon enfant. N'ayez donc aucune appréhension. Don Miguel entend ne pas mêler votre cause à celle des autres et vous traiter non comme des prisonniers, mais comme des hôtes. »
« Mais pourquoi ? » dit-elle en levant vers lui des yeux surpris. Don Sanche dissimula dans sa moustache un sourire un peu malicieux.
« Cela, je n'en sais rien. Notre cabetier n'a pas coutume de faire connaître à ses humbles sujets les raisons de sa conduite. Allons, elle viendra donc vous chercher tout à l'heure, seigneurite, ainsi que votre frère, pour vous conduire vers Don Miguel. »
« Allons-nous savoir enfin les motifs de cette attaque de notre expédition ?» s'écria Jacques quand le médecin eut disparu. « Réellement, Inès, on ne dirait pas des brigands ordinaires. Et cette installation, pourvue de toutes les inventions modernes. »
« Je n'y comprends rien, » murmura Inès en secouant la tête. « Et qu'est-ce donc que ces révélations promises ?»
Une extrême appréhension la serrait au cœur, tandis qu'elle attendait Alonso. Elle ne savait ce qu'était au fond cet étrange chef de bandit et ce que signifiait son singulier changement à l'égard des jeunes de Brévis. Puis, qu'allait-elle apprendre de douloureux, tout au moins de pénible, par cet interrogatoire de ses parents ?
Alonso apparut bientôt en disant « Sa seigneurie attend la seigneurite et le jeune seigneur. »
Ils la suivirent dans un large couloir qui aboutissait à une salle creusée en plein roc. La voûte, extrêmement haute, était soutenue par d'énormes piliers de granit ornés de curieuses sculptures. Et le sol, sous la lumière des innombrables lampes électriques, apparut aux frères et à la sœur comme couvert d'un sable jaune rutilant.
« On dirait de l'or !» s'exclama Jacques.
« C'est de l'or en effet, seigneur, » dit Alonso. Le cabétille en fait toujours mélanger au sable que l'on recueille dans une petite carrière près d'ici. Mais alors, il en a des quantités, votre chef, pour le prodiguer ainsi. » Alonso eut un sourire mystérieux, mais ne répondit pas. Ils sortirent de la salle, s'engagèrent dans un second couloir plus large encore que le précédent et dont les parois disparaissaient sous de magnifiques tapisseries anciennes. Puis Alonso souleva une portière et les deux jeunes gens se trouvèrent cette fois dans une vaste pièce éclairée par la lumière du jour. Ils se rendirent compte aussitôt que c'était une tente. Mais quelle tente ! Tout l'intérieur était tendu de merveilleuses soieries vénitiennes, le sol disparaissait sous des tapis d'Orient, aux nuances à la fois vives et douces. Partout, des sièges recouverts d'étoffes chatoyantes, des tables faites de bois précieux, ornées de délicates ciselures d'or, de magnifiques armes anciennes, des objets d'art de prix, des plantes vertes et des gerbes de fleurs, s'élançant d'admirables vases en porcelaine précieuse ou en or ciselé. Et tout cela était disposé avec un goût parfait, avec le sens artistique le plus sûr. Inès et Jacques, un moment éblouis, demeuraient devant la portière qui s'était abaissée derrière eux. Mais un homme qui écrivait devant une table chargée de livres et de papiers se leva vivement et s'avança vers eux. « Vous voilà donc enfin remise, mademoiselle !» dit la voix harmonieuse de Don Miguel. Et, tout en parlant, le jeune homme s'inclinait respectueusement devant Inès. « Je ne saurais vous dire combien j'étais désolée de vous savoir souffrante, d'autant plus que je m'en trouvais responsable par suite de la sottise de Don Esteban. Mais Don Sanche m'a dit que vous étiez complètement remise. « En effet, monsieur, Don Sanche m'a d'ailleurs admirablement soignée. » Il semblait à Inès qu'elle répondait comme en un rêve. Cette pièce éblouissante, cet étranger aux manières de grand seigneur, qui lui parlait avec une respectueuse courtoisie, réellement, était-elle bien dans un coin ignoré des Andes, au pouvoir d'un chef de bandit? Elle allait s'éveiller tout à l'heure de ce songe bizarre. Mais la voix prenante et chaude s'éleva de nouveau. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle, et vous aussi, monsieur de Brévis. » Ils suivirent Don Miguel jusqu'à un petit divan couvert de soie brochée, sur lequel ils prirent place. Le jeune homme demeura debout devant eux et dit avec un léger sourire « Vous ne vous attendiez pas, mademoiselle, à retrouver ici un homme que vous aviez vu à Paris pendant de très brefs instants ?»« Ainsi, c'est bien vous » murmura-t-elle. « C'est moi, certainement, Michel de la Roche-Gléon, Don Miguel dans les républiques sud-américaines, le roi des Andes pour ses fidèles, le maître pour tous les affiliés aux frères de la justice. » « Mais je ne comprends pas, » balbutia la jeune fille. « Comment je puis être tout cela à la fois ? J'aurai l'honneur de vous l'expliquer, car je tiens essentiellement à ce que vous ne me considériez pas comme un chef de brigand. C'est bien l'idée que vous vous faites de moi, n'est-ce pas ? Mais il me semble que toutes les apparences sont pour le faire croire, » dit-elle franchement. Un sourire vint aux lèvres de Don Miguel. « À la bonne heure, vous êtes très sincère, mais je tiens à vous faire changer d'avis. Déjà, tout à l'heure, en écoutant l'interrogatoire de vos estimables parents, vous jugerez qui est vraiment honnête, d'eux ou de moi. »« Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-elle avec anxiété. Vous le saurez dans un instant, mademoiselle. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que vous n'avez aucune crainte à conserver pour votre frère et pour vous. Aussitôt que les circonstances me le permettront, je vous ferai conduire hors d'ici et rapatrier en France à la seule condition que vous me fassiez tous deux le serment de ne jamais rien révéler de ce que vous avez pu voir ou entendre ici. Mais les autres ? Les prunelles bleu sombre, qui s'étaient faites singulièrement douces en s'attachant sur Inès, devinrent subitement très dures. « Ne vous occupez pas d'eux, mademoiselle, » dit-il froidement, « leur sort est déjà fixé. »« Vous ne voulez pas dire que vous les ferez mourir ?» s'écria-t-elle avec effroi. Les sourcils de Don Miguel se froncèrent. « Je n'ai pas coutume de rendre compte à personne des décisions qu'il me plaît de prendre, » dit-il avec hauteur. « En vous remettant en liberté, je déroge à toutes mes habitudes, car jamais un de mes prisonniers n'est sorti d'ici. Ne me demandez donc pas davantage, mademoiselle. » Il s'inclina légèrement et, gagnant l'extrémité opposée de la tente, alla prendre place sur un divan garni de larges coussins orientaux, après avoir appuyé sur un timbre électrique. Un petit homme chauve, à la mine intelligente, apparut aussitôt. « Fais entrer les prisonniers, Chauvert, » dit Don Miguel. Et, tandis que l'homme s'éloignait, le jeune chef, après avoir posé près de lui un revolver, se mit à allumer une cigarette, non sans avoir jeté un rapide coup d'œil vers Inès, dont l'expressive physionomie laissait voir la pénible impression produite par ses dernières paroles. Au bout de quelques instants, les trois blancards rentrèrent, suivis de M. Hamlet, de Bille et des autres. « Avancez donc !» dit Chauvert, impatienté, en voyant qu'il s'arrêtait, ahuri sans doute par ce décor inattendu. Ils obéirent et, sur l'ordre de leur guide, s'arrêtèrent à une distance respectueuse de Don Miguel qui, la cigarette aux lèvres, les effleurait d'un regard de méprisante indifférence. Inès fut aussitôt frappée de la pâleur d'Edmé, de sa démarche lasse, de l'abattement de toute sa personne. Tout d'abord, les prisonniers n'avaient pas vu Jacques et sa sœur, mais Bille, en tournant la tête pour jeter un regard autour de lui, les aperçut. « Tiens, mademoiselle Inès et monsieur Jacques, » dit-il à mi-voix, car lui, parisien frondeur, se sentait un peu intimidé quand même dans ce décor somptueux, en face de cet homme au regard étrangement fascinant. « Silence !» dit rudement Chauvert. « Ici, on ne parle que lorsqu'on interroge. » Tous les autres avaient tourné la tête à l'exclamation de Bille et le regard furieux des Blangas enveloppa les jeunes brévistes confortablement assis là-bas, tandis qu'eux étaient obligés de demeurer debout devant ce chef de bandit. « Va, Chauvert !» dit laconiquement Don Miguel. Chauvert s'était placé debout à la droite de son maître face aux prisonniers. Il interrogea. « Monsieur de Blangas, dites-nous le véritable motif de votre expédition. » Le gros Blangard redressa la tête et bomba la poitrine. J'ai déjà dit que j'étais à la tête d'une mission officielle du gouvernement français pour l'étude de la géologie de la cordillère et... Oui, oui, cela, c'est l'étiquette. Mais Don Miguel voudrait savoir le vrai motif. Comment le vrai? Il n'y a que celui-là. Vraiment? Désolé de vous contredire, monsieur de Blangard, mais il en existe un autre. « Par exemple, c'est trop fort !» s'exclama Blangard. « Et pourriez-vous me dire, puisque vous êtes si bien renseigné ?»« Certainement, je vais vous rafraîchir la mémoire. » Ayant découvert dans les papiers de M. Desnardières, grand-père de vos pupilles, certains documents vous indiquant l'existence, en un point de la cordillère, d'un gisement d'or d'une incalculable richesse, vous... « C'est archi-faux ! Quelle invention !» cria Blangard. « Taisez-vous et ne m'interrompez plus. Je dis donc que vous avez manœuvré près de vos copains du gouvernement pour vous faire donner la direction d'une mission afin de pouvoir, sous le couvert de celle-ci, arriver jusqu'au gisement aurifère, objet de vos convoitises. Mais sachant que les partisans du roi des Andes pourraient tenter de vous arrêter au passage et ayant en outre vous-même de ténébreux projets, vous avez chargé un obé Puché, membre d'un comité influent, et auquel vous aviez des obligations électorales de vous choisir 4 ou 5 gaillards disposés à tout pour de l'argent. Après cela, vous vous êtes mis en route en menant vos pupilles dans l'intention d'obliger Mademoiselle de Brévise à épouser votre fils. Quant à Jacques de Brévise, comme en bon socialiste, il ne convenait pas à aucun de vous de partager avec lui cette fabuleuse fortune, vous aviez formé le projet, dès avant de quitter Paris, de le supprimer. Blangard devint verdâtre, tandis que Maxence s'écriait « C'est abominable, des inventions pareilles. Vous êtes !»« Chauvet, au premier qui interrompt, tu appelleras Piotr et tu lui feras donner quelques bons coups de lanière, » dit la voix brève de Don Miguel. « Oui, maître. Je disais donc, monsieur de Blangard, que vous aviez l'intention de supprimer votre jeune pupille. Deux fois, votre fils a essayé. d'abord en montant au ranch de José Valine, puis aussi lorsqu'il tenta, le jeune homme étant en sueur, de le faire entrer dans une caverne glaciale où il aurait trouvé certainement une maladie mortelle. Une sourde exclamation se fit entendre. Inès, livide, s'était redressée sur son siège en posant ses yeux pleins d'angoisse et d'horreur sur ses parents. Don Miguel tourna la tête vers elle et une lueur de compassion très douce passa dans son regard. Les Blangards étaient tous trois devenus blêmes. Pourtant, ils redressaient la tête, protestant par leur attitude, car la menace du chef leur inspirait une crainte salutaire. « Avouez-vous, monsieur Maxence de Blangard ?» demanda tranquillement Chauvert. « Non, non, cent fois non !» clama Maxence. « Moi, avoir de pareils desseins, alors que j'aimais cet enfant comme un frère ?» Les phrases hypocrites ne sont pas de mise ici, je vous en préviens. Du reste, il existe des témoins. « Edmond Bille, n'avez-vous pas soupçonné ce monsieur ?»« Dame, oui, pour dire la vérité, j'ai eu cette idée-là. » « Et vous l'avez même avoué à Pigault. »« C'est vrai encore, monsieur. » Lequel Pigault avait très bien vu lui-même la première tentative de Maxence de Blangard. « Pigault, un traître !» s'écria Maxence avec rage. « Que signifient les dires de cet homme ?» Chauvert porta un sifflet à sa bouche. Deux hommes entrèrent et, sur quelques mots de lui, s'emparèrent de Maxence qu'ils entraînèrent malgré sa résistance. Don Miguel se pencha vers un petit cendrier, merveille de ciselure, pour secouer la cendre de sa cigarette, tout en disant avec calme « J'espère que les autres seront plus tranquilles maintenant. Continue, Chauvert !» Alors Inès, pénétrée de surprise et d'horreur, entendit dévoiler par la bouche de Chauvert toutes les turpitudes de ses parents. Ces êtres étranges savaient tout, connaissaient tout. Rien de l'existence du député et de ses enfants ne leur était inconnu. Entreprise malhonnête sous le couvert du gouvernement, abus de confiance, fraudes électorales, manœuvres louches, affaires véreuses sur lesquelles le député, pour prix de sa protection et de son silence, prélevait la part du lion. Tout cela apparaissait au plein jour, accompagné de toutes les paroles prononcées par Blangard dans le laisser-aller de l'intimité, et qui concordait si peu avec les principes affichés par lui à la tribune parlementaire et dans ses professions de foi électorale. Maintenant, il n'essayait même plus de protester. Volette et ses compagnons ricanaient en le regardant. Le bon monsieur Hamlet ouvrait de grands yeux. Évidemment, il n'avait jamais pensé qu'Anatole de Blangard pût être un si misérable personnage. Quant à Edmé, son attitude était singulière. Tout d'abord, elle avait, à l'exemple de son père et de son frère, essayé de redresser la tête. Puis, peu à peu, elle s'était faite toute humble. Et maintenant, elle s'éloignait ostensiblement de son père en donnant les marques d'une profonde indignation. Sans en avoir l'air, Don Miguel suivait des yeux ce manège et un sourire de raillerie méprisante soulevait sa moustache. « Avouez-vous, monsieur de Blangard ?» demanda Chauvert. « Mais non, je n'avoue rien. Ce sont des inventions affreuses !» balbutia le gros homme. « Bon, bon, à votre aise. Nous sommes fixés sans avoir besoin de votre aveu. Aux autres, maintenant. Mademoiselle de Blangard, vous avez approuvé et hautement encouragé les projets de votre père et de votre frère relativement à vos cousins. Moi ?» « Mais c'est absolument faux !» s'écria-t-elle d'un ton de vertueuse indignation. « Jamais je n'ai rien su de ces horribles desseins, pas plus d'ailleurs que de toutes les laides manigances que vous venez de dévoiler. Et c'est mon père qui a fait cela. Il me serait impossible maintenant de vivre près de lui. » Et pour mieux accentuer ses paroles, elle s'éloignait de quelques pas encore. « Écœurant !» murmura Don Miguel avec dégoût. « Ne jouez pas la comédie, mademoiselle de Blangard, » dit tranquillement Chauvert. « Voulez-vous que je vous répète vos propres paroles ?» Et sans souci des dénégations de la jeune fille, il rapporta textuellement des phrases dites par Edmé. Il raconta des faits qui montraient la nature basse et mauvaise de la fille de Blangard. En dernier lieu, il dit comment elle s'était emparée du repas et de la couverture de sa cousine, de telle sorte que la pauvre enfant avait grelotté toute la nuit. Voici pourquoi, sur l'ordre du maître, on vous a enlevé cette nuit vos couvertures et on vous a supprimé votre repas du matin, ajouta Chauvert. Vous avez pu juger ainsi par vous-même de l'agrément que vous avez procuré à votre cousine. Edmé, devenu blême, se détourna tout d'une pièce dans la direction où était assise Inès. C'est vous, menteuse, misérable, qui avez raconté cela ? Don Miguel se redressa brusquement, ses yeux étincelants se posèrent sur la fille du député. « Je vous interdis de prendre à partie mademoiselle de Brévis, » dit-il d'un ton dur et impérieux. « D'ailleurs, ce n'est pas par elle que j'ai connu votre méchanceté et votre hideux égoïsme, car elle est bien trop bonne et trop charitable pour cela. » Edmé perdait complètement contenance sous ce regard si étrangement dominateur qui semblait la pénétrer jusqu'au fond de l'âme. Toute son arrogance habituelle était subitement tombée. Pâle et tremblante, elle demeurait comme anéantie devant le roi des Andes. Don Miguel jeta sa cigarette à demi consumée, puis, regardant de nouveau la jeune fille, il dit froidement « Chauvet, tu feras affecter cette prisonnière au travail des jardins. Et je tiens à ce qu'on soit très exigeant pour elle, qu'il a toujours été pour les autres. » Une exclamation de fureur et d'effroi tomba des lèvres d'Edmé. « Moi, travailler la terre? Vous plaisantez? Jamais, jamais !» Une lueur de hautaine ironie passa dans le regard de Don Miguel. « On en a maté de plus difficiles que vous, ne craignez rien. » D'ailleurs, puisque vous vous dites socialiste, n'est-il pas charmant pour vous de partager jusqu'à votre mort le labeur de ces prolétaires que vous aimez tant ? Mais Edmé ne parut pas sentir la raillerie mordante. Affolée par cette perspective de captivité et de rude travail, elle se jeta à genoux, les mains étendues, les yeux implorants. « Grâce, je ne pourrai jamais ! Ne me condamnez pas à cela ! Si vous me rendez la liberté, je vous promets que jamais !» Chauvin, fais emmener cette femme. Une pareille comédie a assez duré, dit dédaigneusement Don Miguel. Qu'on la mette aussitôt au travail, cela la calmera. Et, toujours impassible, il alluma une nouvelle cigarette, tandis que les mêmes hommes que tout à l'heure entraînaient Edmé absolument anéanti. Blangard avait l'air d'un être assommé. Volette, Milochon et Luret prenaient une contenance de moins en moins rassurée. M. Hamlet et Bill étaient certainement les plus crânes. Le pénétrant regard de Don Miguel les enveloppa chacun à son tour, semblait scruter jusqu'au fond de leur âme. « Monsieur Hamlet, vous n'étiez pas au courant des dessous de l'expédition de M. de Blangard ?»« Mais non, certainement non, » dit le bon savant avec un geste de protestation. « On m'avait parlé d'études géologiques à faire et puis d'une mine de cuivre. Monsieur de Blangard nous trompait en nous faisant marcher pour son seul intérêt. Je sais que vous êtes un honnête homme, monsieur. De même, vous, Edmond Bille, vous l'avez déjà prouvé. En outre, vous vous êtes montré serviable et dévoué pour mademoiselle de Brévis et pour son frère. Vous avez deux fois sauvé celui-ci de la mort qu'il attendait par suite des odieux desseins de Maxence de Blangard. » Il m'est impossible de vous rendre la liberté complète, car jamais un prisonnier n'est sorti de Solepto, mais vous serez du moins entièrement libre ici. Vous aurez, comme logement et comme nourriture, le même traitement que mes hommes. Vous choisirez le genre de travail qui vous plaira le mieux. J'en dispense même M. Hamlet, qui aura suffisamment d'occupation avec sa science, mais je tiens à ce que vous fassiez quelques besognes, Bille. Un homme inoccupé n'a jamais rien valu, je dis même que ce n'est pas un homme. Dame, oui, c'est ma foi vraie, monsieur, en y réfléchissant, dit Bille. On travaillera donc, mais c'est tout de même dur d'être ici à perpète. Mais non, vous vous y ferez très vite, vous verrez qu'on y est heureux. J'exige seulement une soumission complète. En cas de tentative de fuite, ce serait un châtiment sévère, suivi de la prison et de la suppression de toutes les faveurs que je vous accorde. « Pas commode, le patron !» murmura Bille entre ses dents. Ce fut alors le tour des trois autres. Décidément, ce roi des Andes avait une merveilleuse police. En un clin d'œil, ceux qui étaient là apprirent que Volette avait naguère, vers ses 18 ans, volé un vieux curé qu'il avait en partie élevé, que Luret avait fait mourir sa femme, une toute jeune créature de 17 ans, à force de mauvais traitements, que Milochon était l'auteur d'un assassinat dont la justice n'avait jamais pu trouver le coupable. C'était en vain que les trois misérables multipliaient les dénégations. Chauvert avait des preuves écrasantes, il citait des faits d'une si minutieuse exactitude que les accusés finirent par demeurer muets, tremblant de tous leurs membres, devant ce juge qu'ils pressentaient inexorable. « Franchement, vous avez bien choisi votre escorte, monsieur de Blangard, » dit la voix sarcastique de Don Miguel. « Ils étaient dignes de vous, et vous pourrez mourir sans avoir rien à vous reprocher les uns aux autres. »«
Mourir ?»
bégaya le gros Blangard qui flageolait sur ses jambes. Don Miguel se tourna vers Chauvert. « Fais-en mener ces hommes. Je n'ai pas encore fixé le jour de l'exécution. Qu'on les enferme jusque-là en les surveillant de près. »
« C'est odieux ! Vous êtes un misérable bandit !» s'écria Blangard d'une voix rauque. « Traiter ainsi un député français !»
Une sorte d'éclat de rire railleur s'échappa des lèvres de Don Miguel. « Mais c'est précisément cette qualité qui m'incite à me montrer plus sévère à votre égard. Vous êtes un responsable. C'est grâce à vous et aux coquins de votre espèce que la France offre au monde un si lamentable spectacle de ruine morale, pour ne parler que de celles-là, les plus affreuses. Ici, monsieur de Blangard, vous ne trouverez pas de juges à acheter comme il vous est arrivé de le faire dans votre pays. Moi, le souverain chef des frères de la justice, je vous condamne à mort comme un être nuisible à la société, en même temps que comme un assassin en puissance, sinon de fait, puisque vous approuviez les projets criminels de votre fille sur Jacques de Brévis et sur les hommes de votre escorte.
« Les frères de la justice ?» dit Blangard avec un regard affolé.
« Vous êtes au milieu d'eux, dans le centre de leurs opérations. Vous avez été cependant prévenu, monsieur de Blangard. Mais ce gisement d'or vous hypnotisait. Je vais, à ce propos, vous apprendre une chose que vous ignorez naturellement. Le document qui en déterminait l'emplacement avait été soustrait par Don Alphonse de Garante à l'Indien Otetcal, dernier descendant des Incas, lequel était mon bisaïeul. Donc je suis seul le légitime propriétaire de cet or.
Des inventions, râla Blangard. Mais si vous me laissez la liberté, je vous donnerai le document, je renoncerai, ce sera ma rançon.
Vous êtes naïf, mon brave homme, riposta Don Miguel avec un sourire railleur. Ce document, je l'aurais déjà si je l'avais voulu. Mais il m'importe peu, car voilà des années que je puise au gisement tout l'or dont j'ai besoin. Seulement, je voulais vous empêcher de l'utiliser, voilà tout. Vous vous êtes obstiné, vous voyez où cela vous conduit. » Se tournant vers Chauvert, le jeune homme fit un signe. Sur l'appel du sifflet, des hommes parurent et emmenèrent les prisonniers, sauf M. Hamlet et Bille, qui sortirent libres.
« Eh bien, en voilà une histoire !» murmura Bille lorsqu'il fut dehors.
« Si je me doutais, par exemple, en quittant Paris, que je serais enfermé ici pour toujours, et que moi, un socialo, ni Dieu ni maître, j'allais en avoir un de maître. Oh, mais un vrai celui-là ! Sapristi, on n'a pas idée de broncher avec lui. Dites donc, monsieur Hamlet !»
Le bon savant, qui se frottait le front, signe de perplexité, dit paisiblement «
Je serai bien tranquille pour travailler ici. Ce qui m'ennuie, c'est que je ne verrai plus ma sœur et mes neveux. Mais Don Miguel me permettra peut-être de leur écrire en faisant passer mes lettres sous ses yeux. Je lui demanderai aussi de me faire envoyer mes livres et mes collections. Ce chef de bandit doit être un homme charmant quand il le veut et il ne se montrera certainement pas trop sévère à notre égard.
Peut-être non, mais c'est égal. Quoique les camarades ne vaillent pas grand-chose au fond, ça m'ennuie de penser qu'on va leur serrer la vis tout de même, monsieur Hamlet, dit Bille avec un regard de pitié vers Milochon, Volette et Luret, qui s'en allaient, encadrés d'hommes armés.